Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Bienvenue, chers auditeurs, à Dear Veil People. Troisième émission de cette nouvelle année 2021. On va continuer à parler de sexualité avec Frédéric Roux. Frédéric, vous le connaissez, il a déjà été invité à l'émission la saison dernière pour parler de sa pathologie IMC, infirme moteur cérébral. Une pathologie très large qui couvre beaucoup de types de handicaps moteurs. Après avoir discuté avec Adeline et Guillaume de accompagnement sexuel et comment ils l'ont vécu, on va aujourd'hui discuter avec Frédéric pour connaître son point de vue sur l'accompagnement sexuel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue, toi, sur l'accompagnement sexuel? Comment tu le vois? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Comment tu pourrais le définir selon toi?
Alors, selon moi, je trouve qu'effectivement, l'accompagnement sexuel est une bonne chose. Parce qu'il faut arrêter de croire que les personnes handicapées n'ont pas de sexualité et n'ont pas des besoins et des envies. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre en couple ou d'avoir une relation stable ou autre, c'est bien d'avoir d'autres moyens qui permettent d'éviter certaines frustrations, en fait.
Frustration que tu connais, je suppose.
Tout à fait. C'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien, on va dire. Donc, j'ai la chance d'avoir des possibilités physiques pour me soulager, on va dire, entre guillemets. Donc, j'arrive à gérer mes frustrations de manière plus ou moins efficacement.
Mais c'est vrai que je suppose que la masturbation a ses limites au bout d'un moment, qu'on a besoin d'un contact physique, du contact avec l'autre. Est-ce que tu as pu essayer d'entrer en relation avec certaines personnes et comment ça s'est passé pour toi?
Alors, moi, pour ma part, j'ai jamais fait appel à un aidant sexuel. Mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu quelques relations qui m'ont permis de découvrir ces choses qui permettent au corps d'être apaisé, on va dire, de connaître la tendresse et toutes ces choses-là qui tournent autour de l'amour, en fait. Donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir ce genre de relation, puisque ça permet un équilibre. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas la chance, comme moi pour le moment, qui suis célibataire, c'est vrai que avoir recours à une assistante sexuelle, ça peut être une solution en attendant de trouver sa moitié, on va dire.
Pourquoi, toi, jusqu'à maintenant, tu n'as pas eu accès à l'accompagnement sexuel? Est-ce que c'est un choix de ta part? Est-ce que pour toi, il y a des obstacles encore, peut-être notamment psychologiques?
Oui, je pense que effectivement, ça peut être psychologique, aussi peut-être le regard des autres. Je me dis que peut-être ça peut être plus ou moins bien perçu par mes proches. Donc tout ça, j'ai pas encore passé le cap.
Je suppose que ça vient aussi de cette image que peut avoir l'accompagnement sexuel. Pour beaucoup, ça n'existe pas. Les gens ne sont pas au courant que ça existe. Et sinon, pour les autres, notamment selon la loi française, c'est encore considéré comme du proxénétisme. Je suppose que ça aide pas à avoir une bonne image de l'accompagnement.
Bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça, je pense que l'obstacle est plus, pour moi, du moins, psychologique qu'autre chose.
Elle est aussi un peu systémique par rapport à cette image de l'accompagnement sexuel. Adeline en a très bien parlé, et même Cybèle, lors de l'épisode encore précédent, il y a vraiment une certaine stigmatisation de ce métier. Qui contribue, je pense, la stigmatisation du désir sexuel chez la personne en situation de handicap. Donc toi, ce qui fait que tu as essayé de trouver tes solutions par toi-même, on va dire, et à entrer en relation avec des femmes, puisque ben, tu es hétérosexuel.
Tout à fait.
Comment se sont déroulées ces relations pour toi?
Mais en fait, dans un premier temps, on va dire que ça s'est bien déroulé. Pour une d'entre elles, tout au moins, j'ai pu avoir une relation avec une personne semi-valide pendant 1 an et demi. Après, j'ai eu la chance aussi que mes parents, là-dessus, étaient assez ouverts. Donc, ils m'ont permis de vivre un petit peu avec elle chez eux, donc ce qui a vraiment permis d'avoir une relation pleine et entière. Et après, nos relations se sont, au fil du temps, se sont délitées, donc je correspondais plus à ce qu'elle attendait, entre guillemets, donc ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin, on va dire, parce que c'est elle qui a mis fin à notre relation, quoi. Et j'avoue que ça, pour moi, ça a été un passage très difficile, parce que je tenais beaucoup à cette personne, donc il a fallu que je tourne la page, et c'est pas évident de tourner la page quand on est amoureux.
Oui, ça, je suppose que tout le monde l'a connu au moins une fois. Je suppose aussi que tu as eu des relations avec d'autres personnes, avoir des discussions et essayer de sauter le pas. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'est pas un peu tout le temps le même scénario qui se met en place, on va dire?
Mais si, effectivement, c'est toujours à peu près le même scénario. Quand on fait connaissance avec une personne, on me dit souvent que on apprécie ma compagnie et que on est content de faire ma connaissance et de discuter avec moi. Et après, quand j'essaye d'aller plus loin en essayant d'installer une relation et de sortir avec cette personne, tout de suite ça, la relation change, si tu veux. Elle se met plutôt en retrait. Et elle dit « Oui, mais je préfère qu'on reste amis. » Alors, je pense que le handicap peut faire peur aussi, effectivement, parce que c'est pas évident. Quand on prend une personne handicapée comme compagnon, entre guillemets, on prend son handicap aussi. Donc c'est pas simple. Mais c'est vrai que j'ai eu souvent cette observation, c'est-à-dire que les gens sont très heureux de discuter avec moi. Et sitôt que j'essaye d'être un peu plus sérieux dans les relations, on recule. Et on me dit, je préfère qu'on reste amis.
Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que le handicap a quelque chose d'un peu ambivalent, comme à la fois capable d'attirer la curiosité des gens et de pouvoir rencontrer plus de personnes, peut-être, avoir utilisé le handicap comme une raison sociale et en même temps quelque chose qui va être bloquant, qui va bloquer la relation jusqu'à un certain point, et qu'on va pas pouvoir passer au-delà à quelque chose de plus intime et peut-être de plus sérieux aussi, comme tu as pu le dire.
C'est ça, parce qu'en fait, je pense que le handicap a un côté intéressant, entre guillemets, parce que les gens veulent savoir aussi. Donc, ils s'intéressent à toi au premier abord, effectivement. Donc, ils vont un petit peu facilement vers toi, surtout si toi aussi t'es avenant. Et après, quand tu veux préciser un peu plus les choses, ils ont vraiment ce sentiment de crainte, je pense. Et parce qu'ils connaissent pas forcément le handicap non plus, et c'est ce qui fait peur.
Parce que la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on est réellement intéressant ou est-ce qu'ils veulent discuter avec nous pour vérifier que leurs a priori étaient justes et finalement ils se rendent compte qu'elles ne le sont pas et prennent peur de cet inconnu?
Ça, effectivement, c'est une question qu'on peut effectivement se poser parce que, comme le handicap, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, ils ont une approche un petit peu de. Ils veulent savoir pour se renseigner, mais sitôt que ça devient un peu plus complexe. La peur prend le dessus, en fait. Et effectivement, ils se disent que on n'est pas fait pour eux. Et c'est relativement dommage. Et c'est vrai que beaucoup de personnes que j'ai, de femmes que j'ai vues, ont cette même problématique, en fait.
Cette même problématique.
Et ben, c'est-à-dire que ils font le pas de venir vers moi, mais après, quand ça devient un peu plus sérieux, enfin qu'on essaye d'être un peu plus sérieux, ils s'en vont très vite. Et donc, c'est vrai que je reste un petit peu en expectative et je me dis que finalement, être à deux, c'est peut-être pas pour moi, du fait de mon handicap.
Nous allons rebondir sur cette question lorsque les gens, les femmes te disent que tu n'es peut-être pas pour elles. Ça me fait évoquer une petite question. On reviendra là-dessus, cher auditoris, après notre pause musicale du jour. Il s'agit du titre I Want Your Sex de George Michael. Voilà, c'est notre petit moment nostalgie du jour et qui, je pense, colle totalement à notre thématique. Bonne écoute, chers auditoristes, à tout à l'heure.
let me go.
Nous sommes de retour sur Dear Valley People, troisième épisode de cette année 2021, toujours en compagnie de Frédéric Roux pour parler du désir sexuel chez les personnes en situation de handicap et notamment parler de son expérience vécue, comment lui va les choses, quel est son point de vue sur la situation. Juste avant la pause, il a pu nous dire que certaines femmes pouvaient se rendre compte qu'il n'était pas pour elles, peut-être. Selon toi, Frédéric, pour quelles raisons elle dit ça? Est-ce que c'est vraiment parce que tu n'es pas pour elles dû au handicap ou est-ce qu'elles ne sont pas assez fortes pour faire face au handicap?
Je pense qu'effectivement, il y a un peu des deux. Je pense qu'effectivement, de par ma situation, ils se disent que je ne suis peut-être pas fait pour elle, mais aussi, je pense qu'ils ont du mal aussi ils auraient du mal aussi à gérer le handicap au quotidien, à mes côtés. Et d'un côté, je les comprends, parce que c'est vrai que c'est pas évident, il me faut de l'aide pratiquement en permanence. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Mais au-delà de mon handicap, je suis un être humain à part entière. Donc,
Oui, et ça, on l'oublie souvent. Et comme tu nous l'as rappelé en début d'émission, Les personnes en situation de handicap ont aussi un désir sexuel, des envies qui méritent d'être respectées.
Tout à fait.
Justement, est-ce que ces pensées de ces femmes ne viennent pas aussi du stéréotype qui provient des médias et de la manière dont est montré le handicap? De manière toujours très unilatérale, je dirais, où tous les handicaps seraient pareils, alors qu'en fait, il n'en est rien. C'est très complexe et très varié, et finalement, les personnes s'en rendent compte uniquement lorsqu'on côtoie des personnes concernées.
Bien sûr, mais là, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est que je pense qu'effectivement, la société ne connaît pas assez le handicap et n'est pas prête non plus à faire évoluer les choses. Donc, du coup, il y a des stéréotypes qui perdure, et je pense que ça fait qu'on a une société qui se dit ouverte, mais en fait qui n'est pas, ou qui n'est pas assez, surtout sur ce sujet-là, parce que la sexualité est quand même un sujet en France tabou, et donc de parler ouvertement de handicap et de sexualité, pour le lambda, entre guillemets, ça fait peur.
Et au milieu de cette situation, de cette société avec plein de tabous autour de la sexualité, autour du handicap, comment on fait pour accepter son propre désir sexuel et comment on fait pour le montrer aussi, je pense?
Alors là, moi, je sais pas si j'y arrive, mais j'essaye du moins de gérer mes frustrations, comme je disais tout à l'heure, et je suis assez ouvert, je pense. Donc, quand je peux débattre de ce sujet, je le fais avec plaisir pour essayer de faire avancer les choses à ma manière.
Comme tu peux le faire aujourd'hui en participant à l'émission, et je te remercie. C'est
Avec
aussi
plaisir.
l'objectif de Dear Valley People, d'ouvrir les esprits, les pensées, et de voir que tout est possible et tout existe. Tu as parlé de soulager tes frustrations. Je suppose que tu aimerais bien passer à l'étape au-dessus, arrêter de se satisfaire de
C'est ça.
cette possibilité. Selon toi, est-ce que réussir à, comment dire, à prendre confiance en toi sur cette thématique justement et à montrer que tu peux en parler, est-ce que c'est une manière de devenir désirable? Parce que finalement, la question, elle est là. Il y a aussi cette question de nous, en situation dans le cas d'avoir du désir, mais aussi d'être désirable.
Oui, ben en fait, ce que j'aimerais, c'est que ce genre d'émission puisse faire prendre conscience aux gens qui nous écoutent et voire plus, se disent qu'effectivement, les personnes handicapées, au-delà du handicap, peuvent être tout à fait désirables, et peut-être se disent aussi: ça vaudrait le coup de tenter l'expérience, et qu'on nous laisse la possibilité de faire nos preuves en tant qu'homme et non
Que
pas en tant que handicapé, entre guillemets.
tu dis en tant qu'homme, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as le ressenti que d'être en situation de handicap, ça t'enlève une part de masculinité?
Un petit peu, oui. Parce que comme J'ai besoin d'aide en permanence. On peut considérer que si on ne me connaît pas, que je suis moins homme que quelqu'un qui est totalement autonome.
Selon toi, est-ce que c'est quelque chose de proportionnel au niveau du handicap de la personne ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose de, à partir du moment d'un handicap quelconque qui nous enlève une part d'autonomie, alors ça nous enlève aussi une part de masculinité en tant qu'homme?
Je pense que le handicap nous enlève une part de masculinité. Parce qu'en fait, comme je le disais précédemment, je pense que c'est l'autonomie que nous n'avons pas suffisamment qui nous diminue un petit peu cette part de masculinité,
Parce que
pour moi.
finalement, cette part de masculinité ne peut pas se retrouver ailleurs aussi.
Si, je pense, mais pour ça, il faut apprendre à nous connaître.
En effet, ça va être quelque chose de beaucoup moins
Parce que,
visible
bien sûr,
finalement.
parce qu'au premier abord, la masculinité se voit au physique. Voilà, je suis costaud, entre guillemets.
Petite blague entre nous, puisqu'on peut se voir, mais j'ai pu voilà, montrer mes biceps, et en effet, ça fait partie des stéréotypes de la masculinité qu'il faut avoir un corps musclé, alors que finalement, il y a une diversité de corps qui mérite tout à fait d'être considéré comme masculin aussi.
Bien sûr.
Je te remercie, Frédéric, pour cette conversation autour de sexualité, masculinité, la barrière du handicap. Encore une fois, le handicap peut être aussi une barrière sociale dans ce domaine-là
Tout
et
à
quelque chose
fait.
de finalement assez visible au premier plan, puisque on le rappelle, toi, tu es dans le cas du handicap visible où tu te déplaces en fauteuil roulant tout le
Oui,
temps.
tout à fait.
On pourrait avoir, lors du prochain épisode, dernier épisode de cette thématique sur la sexualité, que le handicap invisible n'est pas en reste dans cette problématique de la sexualité chez la personne en situation de handicap.
Bien
Sur
sûr.
ce, cher auditoris, je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.
Merci et au revoir.
Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre.